Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 33. L'endroit indiqué sur la carte se situait à une vingtaine de kilomètres de la maison des parents d'Anthony. Compte tenu du relief, il estima qu'il lui faudrait 4 à 5 heures pour rejoindre, à pied, le lieu de rendez-vous. La lettre spécifiait de ne pas utiliser d'objets fabriqués après le 19e siècle. Cela lui interdisait même des inventions aussi anciennes que la bicyclette ou la boussole, dont il ne trouva pas de modèle assemblé avant cette date, même dans les brocantes aux alentours de Paris qu'il fréquenta assidûment avant de revenir en Ardèche, bredouille. Ses parents s'inquiétèrent à nouveau pour lui, alors qu'il préparait son étrange expédition de bon matin. « Tu ne prends même pas d'eau ?» demanda sa mère. « Je ne sais pas si j'ai le droit. Tu as l'intention de marcher 5 heures sans boire? Il fait déjà chaud, tu sais. Est-ce que tu as un récipient datant d'avant 1900 ?»« Une vieille outre en cuir, une gourde en fer ou en terre cuite, je ne sais pas. Non, bien sûr que non. Alors, je me passerai d'eau. La carte indique une source presque sur le chemin. Je ferai un détour pour y boire. De toute façon, je pars en avance. Tu es sûr que tu vas trouver? L'endroit est un peu sauvage. Des broussailles, des bois, ajouta son père. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Anthony l'espérait, en tout cas. Il avait bien étudié la carte et pris des points de repère qui paraissaient flagrants. Avec l'aide du soleil, il n'avait qu'à suivre la direction de son ombre, au moins au début, et puis régulièrement vérifier son positionnement par rapport au plan. Avec une voiture et un GPS, il serait sur place en 30 minutes maximum, songea-t-il. Mais le défi de Marion arrivait à point nommé pour tester sa capacité à réduire sa dépendance au monde moderne, à renouer avec les choses simples et naturelles. Ses parents le regardèrent partir comme s'il n'allait jamais revenir. D'ailleurs, il n'avait pas précisé s'il revenait, ni à quelle heure et par quel moyen. Une fois sur place, loin de tout et sans téléphone, qu'allait-il faire? Il ne le savait pas lui-même, mais il remit son sort entre les mains de Marion. Il espérait qu'elle se rendît compte de la marque de confiance dont il témoignait, ce faisant. Après avoir simplement traversé la route, il fit un signe de la main un peu ridicule vu la situation. Des milliers de randonneurs partaient chaque jour pour des trajets bien plus difficiles, sans avoir besoin de l'encouragement de leurs parents ou de leurs proches. Mais Anthony avait l'âme d'un citadin, au fond, et la nature ne lui était pas encore très familière. En sortant de son village, il regarda la carte avec application. En ayant bien conscience que les premiers kilomètres sur une fausse piste l'éloigneraient grandement de sa destination. Les rares chemins et routes qui figuraient sur la carte s'éloignaient tous du point de rendez-vous, si bien que les empruntés auraient allongé la distance d'une dizaine de kilomètres au moins. Pour rejoindre l'endroit à pied sans y passer la journée, la seule solution était de prendre à travers les champs et les bois, en dehors même des sentiers de randonnée dûment fléchés. Il entra sitôt dans une forêt qu'il devait traverser dans sa largeur et semblait déboucher sur une prairie. Marcher tout droit dans une forêt n'était pas chose aisée, et se guider avec le soleil qui perçait à peine le feuillage relevait de la gageure. Rapidement, il comprit que sa direction ne pouvait être qu'approximative et qu'il allait faire d'inévitables détours qui allaient augmenter encore la distance qui lui faisait déjà un peu peur. On marchait beaucoup à Paris, mais les points de repère étaient innombrables, les plans de ville accessibles à chaque arrêt de bus ou chaque bouche de métro, et l'on pouvait toujours renoncer à la marche pour emprunter les transports en commun ou appeler un taxi. Quand il atteignit l'orée du bois, rien ne lui permettait d'affirmer qu'il était bien sorti par où il le pensait. Il observa les alentours à la recherche d'un détail, se servit de son ombre à nouveau clairement visible comme d'une boussole et entreprit de traverser le pâturage qui se trouvait face à lui. Il était clôturé de fils barbelés rouillés, péniblement maintenus horizontaux par des piquets vermoulus. Aucun animal ne pouvait se sentir contraint par une telle enceinte, aussi pensa-t-il que l'endroit était inoccupé. Lorsqu'il fut engagé jusqu'au milieu du pré, il aperçut le taureau qui y paissait et ce dernier le vit au même moment. Passablement agacé par cette intrusion sur son domaine, le bovidé ne quittait pas Anthony des yeux, même s'il se trouvait encore à une centaine de mètres de lui. Feignant l'indifférence, Anthony tenta de maîtriser sa respiration et son pas. Il sortit lentement la carte de sa poche pour trouver le point le plus proche lui permettant de sauter la barrière en espérant que l'animal ne fît pas de même. Il crut entendre une expiration bovine, signe d'une impatience courroucée précédant le sprint vers l'intrus. Anthony remarqua que son t-shirt avait des motifs mauves et se demanda si la vue de l'animal était assez fine pour distinguer les couleurs à cette distance. S'il voyait rouge là où c'était violet, le quadrupède aurait au fait d'être sur lui pour l'embrocher comme un matador maladroit. Il aperçut des piquets biscornus en face de lui, mais à une distance qui n'était pas tout à fait rassurante encore. Il ajusta sa trajectoire pour couper au plus court et gagner peut-être de précieux centimètres pour la fin de sa course, car il n'imaginait pas pouvoir continuer sa démarche de sénateur lorsqu'il entendrait les sabots galoper dans son dos. Il arrivait maintenant à un point où il ne pouvait plus regarder l'animal sans tourner la tête, et il craignait en le faisant de provoquer l'ire du bestiau. Il s'abstint donc. Mais quand il entendit les premières foulées se diriger vers lui, il évalua d'un coup d'œil la distance qui les séparait et se mit à courir à toutes jambes vers la clôture la plus proche. Il la rejoignit finalement avant le taureau, qui stoppa son effort à mi-parcours et vint le rejoindre d'un pas lent au bord de la barrière. Ce dernier passa sa tête au-dessus des barbelés, intrigué et à peine essoufflé, pendant qu'Anthony crachait sa salive en essayant de reprendre son souffle appuyé sur un tronc d'arbre. Le jeune homme arracha quelques touffes d'herbe verte de la prairie voisine pour les présenter sous le museau de l'animal, qui les mâcha longuement en le regardant de ses yeux sombres et brillants. « Tu m'as fait peur, bétail !» dit Anthony sans trouver d'injure plus adaptée à la situation. Puis il sourit en voyant que le bovin était non seulement inoffensif, mais aussi affectueux qu'un animal de compagnie. Il regarda longuement Anthony pour suivre sa route à travers champs avant de le voir disparaître derrière une pente abrupte. Le jeune homme examina la carte et admit que sa position était incertaine à 1 kilomètre près. Mais un des points de repère qu'il avait noté se trouvait normalement à moins de 500 mètres de là. Il s'agissait d'une bifurcation caractéristique entre deux chemins de randonnée qui passaient non loin d'ici sans être directement sur sa trajectoire. La carte n'avait pas l'air toute récente. Aussi les contours des massifs forestiers n'étaient pas très fidèles à la réalité du terrain. Néanmoins, on pouvait reconnaître quelques similitudes d'ensemble et s'y fier pour trianguler une position approximative. Il tomba presque par hasard sur son point de repère et en profita pour remettre à jour sa carte mentale à partir de celui-ci. En prenant le temps d'être aussi précis que possible, il partit dans une nouvelle direction à partir de ce point et estima approximativement le temps qu'il lui restait à marcher. Cela faisait maintenant plus d'une heure qu'il était parti. Ses chaussures lui faisaient mal, et une ampoule se forma rapidement sur son orteil, puis se perça douloureusement, l'obligeant à adapter sa démarche pour épargner à cette zone de nouveaux échauffements. Mais l'effet secondaire de cette nouvelle posture de marche se fit sentir au niveau de ses hanches, autour desquelles ses muscles se contractèrent de façon inhabituelle. Le soleil commençait à être haut dans le ciel, et Anthony avait soif. Bien sûr, il aurait pu tricher et abandonner avant l'arrivée bouteilles et autres emballages de barres énergisantes consommées pendant le trajet. Marion n'en eut jamais rien su. Mais il se devait d'être intègre avec elle. Il ne voulait pas la décevoir. Les sentiments qu'il avait à son égard étaient mélangés. Elle lui était pour l'instant étrangère. Il avait cru discerner les contours de sa personnalité l'été précédent en l'imaginant souffrir de l'archaïsme de son père, de ses idées obsolètes, de son train de vie misérable. Peut-être avait-il projeté sur elle ce qu'il aurait ressenti en étant à sa place. Toujours est-il que tout ce qui s'était passé ensuite lui avait donné tort. Il la croyait influençable, c'était une femme de caractère. Il pensait qu'elle avait abandonné sa scolarité sur un échec, c'était une scientifique de renom. Enfin, il pensait lui avoir manqué, l'avoir conquise, mais à son retour de mission, la première fois, elle avait été plus distante que jamais. Il devait reconnaître aujourd'hui qu'il avait sans doute fait preuve d'un complexe de supériorité particulièrement mal placé, et cette randonnée fatigante était un excellent moyen de l'expier. Il approchait maintenant de la source d'eau qu'il avait entourée d'un cercle rouge sur la carte. S'il hésitait avant le départ à faire un détour d'un bon kilomètre pour s'y désaltérer, il n'avait à cet instant plus aucun doute sur l'impérative nécessité de découvrir le point d'eau. Le ciel semblait se couvrir peu à peu, et le soleil piquant laissa la place à une moiteur bien plus désagréable, annonçant un orage prochain. Il avait refusé de consulter la météo la veille, mais les prédictions de ses parents lui avaient fait comprendre que le temps ne resterait pas au beau fixe. L'eau qui suintait de la paroi rocheuse était difficile à recueillir, mais en y plaquant ses mains à maintes reprises pendant quelques secondes, il put en boire plusieurs gorgées qui le rafraîchirent. Il s'aspergea le front et la nuque et repartit pour le dernier tronçon de son expédition pédestre qu'il estimait à 5 kilomètres environ. Comme il lui restait presque 2 heures avant l'heure du rendez-vous, il se permit de ralentir le pas malgré la menace de plus en plus pressante des nuages gorgés de pluie. Au loin déjà, on entendait gronder le tonnerre. 5 kilomètres plus loin, il se rendit compte de l'erreur de débutant qu'il avait commise. À vol d'oiseau, le point de rendez-vous se trouvait à quelques centaines de mètres à peine, mais un obstacle vertical d'une quarantaine de mètres se dressait devant lui. Une falaise, qui était parfaitement indiquée sur la carte par des courbes de niveau très rapprochées, mais comme la forêt recouvrait à la fois le bas et le haut du relief, Anthony crut qu'il s'agissait d'un même plan. L'obstacle naturel était infranchissable. Il fallait en faire le tour, mais cela ajoutait 5 à 6 kilomètres supplémentaires à son périple déjà éreintant. Il n'osait pas imaginer l'état de ses ampoules, ni le moment où il devrait, contraint et forcé, retirer ses chaussures et peut-être même un jour les remettre. Mais galvanisé par la peur d'arriver en retard au rendez-vous, il surmonta la douleur abominable qui parcourait de ses signaux électriques tout son système nerveux et se remit en marche. Il arriva au sommet, épuisé et en sueur. L'atmosphère orageuse s'abattait sur lui comme une couverture épaisse et gênante qui ralentissait ses gestes en l'étouffant davantage encore. De temps à autre, de grosses gouttes tièdes arrivaient jusqu'à lui, mais les nuages tournoyaient au-dessus de lui sans vouloir déverser franchement leur fraîcheur liquide. L'orage n'en finissait plus d'arriver. Il l'imagina retenu au loin par un relief jaloux qui quémandait son eau. Ses pensées n'étaient plus tout à fait cohérentes. Alors qu'il examinait une dernière fois son morceau de papier froissé et humide de sueur et d'eau, il eut l'impression très nette d'être déjà passé à cet endroit. Il fit un effort pour se convaincre qu'il ne tournait pas en rond et que ce souvenir lui venait de plus loin, mais son organisme manquait de nutriments pour alimenter à la fois son cerveau et ses muscles. Il cessa de marcher et observa les alentours à la recherche d'un détail plus net qui l'extirperait de sa folie passagère. Il vit un chemin dont les feuilles mortes avaient été foulées récemment. Il s'en approcha et le suivit. Il semblait mener au bon endroit. Le lieu lui était familier. Il y était venu il y a quelques mois. Maintenant, il le reconnaissait parfaitement. Il s'approcha d'un arbre au tronc impressionnant, y posa sa main en caressant l'écorce, le sourire aux lèvres, puis il leva les yeux. La cabane.